d'un seul coup tous les oripeaux de fausse virilité, de vanité, de dureté, dont je m'étais si laborieusement parée, tombèrent à mes pieds. J'entourai ses épaules de mon bras, cependant que de ma main libre j'esquissais à l'intention de mes camarades ce geste expressif, le médius soutenu par le pouce et animé d'un mouvement vertical de va-et-vient, dont le sens, je le suis par la suite était connue des soldats du monde entier, avec cette différence qu'en Angleterre, deux doigts étaient requis là où un seul suffisait. Dans les pays latins, c'est une question de tempérament. Je n'entendais plus les rires, je ne voyais plus les regards moqueurs. J'entourais ses épaules de mon bras, et je pensais à toutes les batailles que j'allais livrer pour elle, à la promesse que je m'étais faite, à l'aube de ma vie, de lui rendre justice, de donner un sens à son sacrifice et de revenir un jour à la maison, après avoir disputé victorieusement la possession du monde à ceux que j'avais si bien appris à connaître dès mes premiers pas, la puissance et la cruauté. Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, alors que tout est dit et que je demeure étendu sur mon rocher de Big Sur au bord de l'océan et que seuls les phoques font entendre leurs cris dans la grande solitude marine où les baleines passent parfois avec leurs jets d'eau minuscules et dérisoires dans l'immensité, encore aujourd'hui, alors que tout semble vide, je n'ai qu'à lever les yeux pour voir la cohorte ennemie qui se penche sur moi, à la recherche de quelques signes de défaite ou de soumission. J'étais un enfant lorsque ma mère pour la première fois m'apprit leur existence. Avant Blanche-Neige, avant le Chaboté, avant les sept nains et la fée Carabosse, ils vinrent se ranger autour de moi et ne me quittèrent plus jamais. Ma mère me les désignait un à un et murmurait leurs noms en me serrant contre elle. Je ne comprenais pas encore, mais déjà je pressentais qu'un jour pour elle j'allais les défier. À chaque année qui passait, je distinguais un peu mieux leur visage. À chaque coup qu'ils nous portaient, je sentais grandir en moi ma vocation d'insoumis. Aujourd'hui, ayant vécu au bout de ma course, je les vois encore clairement dans le crépuscule de Big Sur, et j'entends leur voix malgré le grondement de l'océan. Leurs noms viennent tout seuls à mes lèvres, et mes yeux d'homme vieillissant retrouvent pour les affronter le regard de mes 8 ans. Il y a d'abord Totoche, le dieu de la bêtise, avec son derrière rouge de singe, sa tête d'intellectuel primaire, son amour éperdu des abstractions. En 1940, il était le chouchou et le doctrinaire des Allemands. Aujourd'hui, il se réfugie de plus en plus dans la science pure, et l'on peut le voir souvent penché sur l'épaule de nos savants. À chaque explosion nucléaire, son ombre se dresse un peu plus haut sur la Terre. Sa ruse préférée consiste à donner à la bêtise une forme géniale et à recruter parmi nous nos grands hommes pour assurer notre propre destruction. Il y a Merzkavka, le dieu des vérités absolues, une espèce de cosaque debout sur des monceaux de cadavres, la cravache à la main, avec son bonnet de fourrure sur l'œil et son rictus hilar. Celui-là est notre plus vieux seigneur et maître. Il y a si longtemps qu'il préside à notre destin, qu'il est devenu riche et honoré. Chaque fois qu'il tue, torture et opprime au nom des vérités absolues, religieuses, politiques ou morales, la moitié de l'humanité lui lèche les bottes avec attendrissement. Cela l'amuse énormément, car il sait bien que les vérités absolues n'existent pas, qu'elles ne sont qu'un moyen de nous réduire à la servitude. Et en ce moment même, dans l'air opalin de Big Sur, par-dessus l'aboiement des phoques, les cris des cormorans, l'écho de son rire triomphant roule vers moi de très loin, et même la voix de mon frère l'océan ne parvient pas à le dominer. Il y a aussi Philoche, le dieu de la petitesse, des préjugés, du mépris et de la haine. Penché hors de sa loge de concierge à l'entrée du monde habité, en train de crier « sale américain, sale arabe, sale juif, sale russe, sale chinois, sale nègre ». C'est un merveilleux organisateur de mouvements de masse, de guerre, de lynchage, de persécution, habile dialecticien, père de toutes les formations idéologiques, grand inquisiteur et amateur de guerre sainte, malgré son poil galeux, sa tête d'hyène et ses petites pattes tordues. C'est l'un des dieux les plus puissants, les plus écoutés, que l'on trouve toujours dans tous les camps, un des plus zélés gardiens de notre terre, et qui nous en dispute la possession avec le plus de ruse et le plus d'habileté. Il y a d'autres dieux, plus mystérieux et plus louches, plus insidieux et masqués, difficiles à identifier. Leurs cohortes sont nombreuses, et nombreux leurs complices parmi nous. Ma mère les connaissait bien. Dans ma chambre d'enfant, elle venait m'en parler souvent, en pressant ma tête contre sa poitrine, et en baissant la voix. Peu à peu, ces satrapes qui chevauchent le monde devinrent pour moi plus réels et plus visibles que les objets les plus familiers, et leurs ombres gigantesques sont demeurées penchées sur moi jusqu'à ce jour. Lorsque je lève la tête, je crois apercevoir leurs cuirasses étincelantes et leurs lances semblent se braquer sur moi avec chaque rayon du ciel. Nous sommes aujourd'hui de vieux ennemis, et c'est de ma lutte avec eux que je veux faire ici le récit. Ma mère avait été un de leurs jouets favoris. Dès mon plus jeune âge, je m'étais promis de la dérober à cette servitude. J'ai grandi dans l'attente du jour où je pourrais tendre enfin ma main vers le voile qui obscurcissait l'univers et découvrir soudain un visage de sagesse et de pitié. J'ai voulu disputer aux dieux absurdes et ivres de leur puissance la possession du monde et rendre la terre à ceux qui l'habitent de leur courage et de leur amour.